Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Bonjour, c'est Serge Surpin pour SatMag. Chaque jour, l'actualité des écrans sur Bretagne 5.
Voilà, c'est fini, comme disait Jean-Louis Aubert. Canal Plus a quitté la TNT ce 6 juin 2025. Et cela, un peu plus de 40 ans après son arrivée sur les ondes hertziennes. 40 ans que la chaîne a fêté récemment, logiquement, le 4 novembre 2024. 40 ans que de souvenirs pour tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, au lancement de cette chaîne, pas comme les autres. C'est l'occasion de vous faire écouter l'une de mes chroniques SatMag que je vous avais proposée à l'époque. Non, pas en 1984, mais en 2024. Quoique, j'aurais très bien pu écrire cette chronique en 1984, que j'aurais publiée sur un service Minitel. Oui, j'avais déjà le virus de la communication électronique à cette époque, et cela n'aurait pas été impossible. Mais donc, je vous ferai réécouter une chronique SatMag sur mes souvenirs du lancement de Canal+. J'y ai participé, à ma manière.
SatMag, l'actu des médias.
Je vais revenir une fois de plus sur les 40 ans de Canal+. Et là, je vais parler de souvenirs, des souvenirs un peu plus personnels à ce sujet. Malheureusement, j'ai pas travaillé chez Canal. Mais j'ai travaillé avec Canal+. J'ai été un distributeur d'abonnements pour la chaîne, et cela depuis son début, le 4 novembre 1984. Et je pourrais même dire avant même son début. Je m'explique. Canal+ est, vous le savez, une chaîne payante. Et pour recevoir la chaîne, il fallait s'équiper d'un décodeur, dont le premier modèle utilisait la norme discret 11. Entre parenthèses, codage conçu en interne par les équipes de Canal+. Et il a fallu trouver un fabricant en urgence pour qu'un décodeur soit disponible à temps. Et c'est la marque Philips qui a relevé le défi, en reprenant le boîtier d'un de ses répondeurs téléphoniques. Ça existait encore à l'époque. En enlevant les cassettes et en rajoutant un clavier pour entrer le code que chaque abonné recevait chaque mois par courrier. Quoi qu'il en soit, au départ, le codage était assez simple. Une anecdote, je sais pas si vous vous rappelez de ce codage, ça permettait, quand on regardait la chaîne encryptée, d'imaginer un peu ce qui était diffusé. Vous imaginez d'ailleurs ce que l'on pouvait voir quand la chaîne diffusait des films pour adultes. Enfin, c'est une autre histoire. Certains utilisaient une passoire, je crois, pour essayer de décoder manuellement la chaîne. Ça marchait pas trop. Mais le problème de ce codage, il était assez simple, et donc, logiquement, assez simple à pirater. Il y a même eu un journal, même plusieurs d'ailleurs je crois, qui a publié les plans pour pouvoir fabriquer facilement un décodeur pirate. Cela dit, assez rapidement, les équipes commerciales de Canal+ se sont demandé comment mettre à disposition du public ce fameux décodeur. Au départ, ils ont envisagé de passer par les marchands de journaux. Mais finalement, ce sont les vendeurs de postes de télévision, bonne pioche, car les vendeurs de téléviseurs étaient en mesure d'aider à brancher le décodeur sur les postes de télévision. Et c'était pas si évident, car on branchait ce décodeur sur une prise appelée Péritel, rendue obligatoire pour tout poste de télévision vendu depuis 1980. Le but de cette prise était de pouvoir brancher sur un poste de télé tout boîtier externe, un décodeur, mais aussi par exemple une console de jeu. Problème, si la prise était obligatoire, présente sur le poste, en fait, la norme ne précisait pas comment ensuite elle devait être raccordée à l'électronique de l'appareil. Parfois même, la prise n'était même pas raccordée. Donc, le choix des équipes de Canal+ de passer par les vendeurs de postes de télé s'est révélé judicieux, car ils ont permis de résoudre des problèmes de branchement. En tout cas, ils ont été l'interface entre l'abonné et Canal+. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, qu'à l'époque, je vendais des postes de télévision. Donc, je faisais partie des distributeurs Canal+. Cela dit, on s'était déjà posé la question à l'époque si on devait le faire ou pas. On a commencé à distribuer les décodeurs un ou à deux mois avant le lancement de la chaîne. Déjà, avant le 4 novembre, les gens qui avaient pris ce fameux décodeur nous appelaient pour nous signaler que, visiblement, ça fonctionnait pas, puisque la chaîne était déjà présente sur les ondes pour tester sa réception. On répondait alors aux futurs abonnés, comme nous l'avait recommandé de faire Canal+, que, avant le 4 novembre, c'était pas encore opérationnel, tout en sachant que chez certains abonnés, et même chez nous en magasin, ça fonctionnait déjà. Oui, pas très logique. On se doutait qu'il y avait certainement un problème à venir, et ça n'a pas raté. Le dimanche 4 novembre, à 10h, l'antenne passe encryptée. Elle avait été lancée à 8h en clair, et là évidemment pas de problème. En tout cas pour ceux qui recevaient le signal, et ils étaient quand même nombreux, puisque Canal+, rappelons-le encore, utilisait l'ancien réseau noir et blanc de TF1, abandonné depuis peu. 10h donc, 4 novembre 1984. Appel nombreux en magasin, et très souvent, les abonnés n'ont pas pu voir le premier film diffusé, L'As des As, de Gérard Oury, avec Jean-Paul Belmondo. Parfois, il s'agissait d'un simple réglage du téléviseur. Et dans d'autres cas, il a fallu trouver d'autres solutions et vendre un adaptateur. Si on était content, c'était de l'argent qui rentrait. Et la plupart du temps d'ailleurs, un adaptateur de marque CGV, un fabricant français situé en Alsace. Frustration quand même chez certains abonnés de ne pas pouvoir recevoir les programmes dès le début. Mais nous, les vendeurs de postes de télévision, nous avons été présents pour résoudre ces problèmes. Des problèmes qu'un marchand de journaux n'aurait certainement pas été capable de résoudre sans une bonne formation. Quant à la suite de l'histoire du lancement de Canal+, vu de ma fenêtre de vendeur de postes de télévision, ça sera pour une prochaine chronique.
Satmag, l'actu des médias.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.